C'était Bruce Springsteen sur Khaled avec le titre Hello Sunshine. On est toujours un petit peu en été dans le thème des saisons parce qu'aujourd'hui on reçoit deux invités, c'est Isabelle Weiss et Vincent Penel de l'orchestre Cordes, Perret pardon, de l'orchestre Cordes en Khaled. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Cordes en Khaled, c'est un orchestre qui a 30 ans maintenant, qui est bien installé, qu'on connaît bien, qui fonctionne avec le conservatoire de Villefranche et qui fête donc cette année ses 30 ans avec un concert exceptionnel qui aura lieu le 21 décembre. Alors racontez-nous un petit peu peut-être l'histoire de cet orchestre.
Bah oui, 30 ans, moi ça m'étonne parce que j'étais là quasi depuis le début de cet orchestre et bah, j'ai la joie de le voir évoluer depuis toutes ces années, progresser. Alors tous les musiciens de l'orchestre ne sont pas là depuis les débuts puisque c'est un orchestre qui a la particularité d'être formé à peu près à 50% des élèves du troisième cycle du conservatoire de l'agglomération de Villefranche, ce qui veut dire que les plus jeunes d'entre eux ont 14 ans par exemple, et il y a effectivement des adultes amateurs qui viennent de toute la région, en fait d'un bassin assez large qui va de Lyon et puis même quelques réfugiés qui viennent de beaucoup plus loin, de la Saône-et-Loire on va dire, qui en fait au départ étaient caladois et puis la vie arrivant ont déménagé mais ne se sentent pas de quitter l'orchestre. Et on a même un doyen cette année qui fête ses 80 ans, donc c'est vraiment un projet intergénérationnel aussi, ce qui est vraiment très chouette. Du coup c'est un projet qui mixe effectivement des amateurs, des élèves donc qui sont en formation et un encadrement de certains professeurs du conservatoire, donc là aussi un groupe très mixte avec des professionnels et des amateurs, enfin voilà. Pour ses 30 ans cette année, effectivement il fallait un événement à la hauteur et du coup on a réinvité la marraine de l'orchestre qui est Marie Charvet, qui est professeure au Conservatoire National Supérieur de Lyon et concertiste, et voilà, c'est une grande joie pour nous de la retrouver et j'imagine pour le public qui aura vraiment le plaisir de la redécouvrir.
Vous avez parlé de l'intergénération. Oula, pas facile à dire. Hein.
N'est-ce pas?
Intergénérationnalité, on va le dire comme ça, de cet orchestre. Est-ce qu'il y a des musiciens qui, peut-être, ont commencé au début dans les premières années de l'orchestre, qui ont fait leur vie, qui sont partis, puis qui sont revenus
oui.
jouer
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que des fois.
J'en suis l'exemple.
Voilà, c'est ça. Bah, vas-y, Vincent, explique-nous.
Si je peux parler de mon cas, j'ai commencé avec une formation classique au conservatoire pendant 10 ans. Et puis après, derrière, bah, la vie faisant, j'ai fait ma vie professionnelle surtout. Donc je suis parti du conservatoire. Puis en fait, la musique est quand même un moteur dans ma vie. Et du coup, j'ai fait d'autres choses, c'est-à-dire j'ai fait du jazz, j'ai fait d'autres formations musicales. Et en fait, l'orchestre me manquait, le conservatoire me manquait, le classique aussi me manquait. Et du coup, j'y suis revenu. Et elles m'ont gentiment accepté, Isabelle et Cécile, notre présidente, pour que je puisse revenir jouer dans l'orchestre.
Et vous êtes combien l'orchestre? Il y a combien de musiciens derrière? On dit comment? On dit des pupitres?
Oui, tout à fait. Bah, écoutez, on est là pour ce concert exceptionnel. On est une quarantaine de musiciens. Donc voilà. Et effectivement, puisque vous parliez de pupitres, alors pour nous, c'est en fait l'orchestre est là, c'est un orchestre uniquement de cordes, hein, comme son nom l'indique. Donc il y a des violons qui sont traditionnellement séparés en deux groupes, donc en deux pupitres dans l'orchestre. Le pupitre des premiers violons. Là, on est à peu près une dizaine. On est 11, je crois. Pareil en second violon, ils sont 11 aussi. Après, il y a des altos. Et en général, c'est un peu le pupitre un peu faible. Et nous, on a la chance d'en avoir 9, donc c'est exceptionnel. Et on a aussi 11 violoncelles. Et donc notre doyen, Jean, qui est à la contrebasse, qui est un peu tout seul, là, cette année. Mais évidemment, ça fluctue un petit peu. L'orchestre aussi se décline avec des formes plus légères, avec des programmes des fois plus courts et qui permettent d'aller faire des choses un peu festives sur le territoire où on descend jusqu'à une dizaine de musiciens, mais là on est 40. Ouais.
Et parmi ces 40 musiciens, donc il y en a qui viennent du conservatoire, qui sont en formation, qui sont en train d'apprendre, et ce passage par l'orchestre, ça va leur permettre de découvrir ce que c'est que de jouer dans un ensemble, c'est ça Vincent?
À la base il y a plusieurs orchestres au conservatoire. Il y a un orchestre de premier et second cycle qui est justement animé par un autre professeur du conservatoire. Et ensuite, quand ils évoluent et qu'ils arrivent à une formation un peu, on va dire, terminale, qu'ils arrivent à la fin de leur formation, ils peuvent basculer sur Cordes en Khaled, où les morceaux sont plus difficiles, demandent plus de technique, plus de travail, donc forcément ça demande d'avoir un peu plus de dextérité pour jouer. Et ensuite, une fois qu'ils sont dans l'orchestre, l'idée c'est qu'ils y restent un maximum de temps. Donc nous, l'idée, quand on est amateur et qu'on est passionné de musique, c'est de faire en sorte que les jeunes qui sont encore en formation, même quand ils continuent leurs études ou même quand ils vont travailler, ils essayent de rester dans l'orchestre. On fait en sorte qu'il y ait un lien vraiment entre tous, pour que l'émulsion qui se crée dans l'orchestre fasse qu'il reste et que le groupe soit vraiment soudé.
Et cet orchestre, il fonctionne aussi donc avec les professeurs du conservatoire qui jouent dedans ou qui viennent plutôt en accompagnement
Alors les deux, moi, c'est aussi un orchestre qui a la spécificité de ne pas avoir de chef d'orchestre attitré. Et la plupart des programmes, donc c'est moi-même qui suis professeur au conservatoire, qui les dirige, mais en jouant, c'est-à-dire ce qu'on appelle en violon conducteur. Alors comme ça se faisait pratiquement exclusivement à l'époque baroque d'ailleurs, et c'est d'ailleurs assez drôle de voir que c'est redevenu un peu à la mode. Il y a notamment l'Orchestre des siècles, qui est un orchestre de professionnels qui ne fonctionne que comme ça, c'est-à-dire que c'est les musiciens qui se co-dirigent eux-mêmes. Donc on travaille l'idée de la cohésion, de l'écoute des autres, et je trouve que ça va aussi bien renforcer notre projet humain global en fait. Et donc voilà, alors effectivement des fois on fait appel aussi à des chefs d'orchestre invités souvent pour des œuvres qui ne se prêteraient pas du tout à ce genre de travail. Donc moi, je les fais travailler et je joue au concert. J'ai des collègues qui interviennent uniquement sur le travail de préparation. Donc là, où, à la fois pour les élèves, mais aussi pour les amateurs, qui du coup bénéficient aussi de ce plus, on va dire, de formation, en ayant un travail encadré par des professionnels. Et là aussi, ça dépend des programmes. Par exemple, le prochain programme qui aura lieu en mars, les collègues professeurs vont jouer dans l'orchestre au moment du concert, certains jouent en soliste, enfin voilà, ça dépend vraiment des programmes, mais en tous les cas, il y a un lien très fort, effectivement, entre le conservatoire et l'idée de la poursuite de la musique, comme le disait très justement Vincent. Et c'est vrai que la présence des amateurs adultes dans l'orchestre est aussi vraiment un atout dans l'autre sens pour les jeunes qui sont finalement à cette période de l'adolescence où beaucoup ont des fois des velléités de vouloir arrêter la musique. Et le fait de voir qu'il y a des adultes qui, eux, restent passionnés, ne sont pas obligés de venir, mais ils sont là parce qu'ils aiment ça, et que c'est possible de continuer, c'est vraiment quelque chose de très précieux pour nous, en fait.
De motivant pour les, ouais. pour les jeunes. Et justement, les débouchés musicaux, on va dire. Une fois qu'on est passé par Cordes en Calade, par le conservatoire, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'orchestres dans la région, peut-être, je ne sais pas, à Lyon. Est-ce que vous en avez... On a eu Paolo Rezé, là, il n'y a pas longtemps.
Tout à fait.
Qui est passé aux Nouvelles Voix en Beaujolais avec le groupe Blue Jayla. Ça peut être une débouchée, il a quitté un peu le classique. Est-ce que vous avez comme ça des élèves qui passent par Cordes en Calade, enfin je dis élèves, des musiciens qui passent par Cordes en Calade et qui continuent vers une formation
Oui, alors je rappelle qu'effectivement le conservatoire de l'agglomération de Villefranche pour le moment n'a pas comme projet premier de former des professionnels, mais puisqu'on s'arrête en fait quand Vincent parlait de la fin des études, pour nous c'est un brevet qui est décerné mais à la fin des études amateurs. Ceci dit, notre idée est de permettre à ceux qui auraient les capacités, l'envie, enfin voilà, de pouvoir devenir professionnel. Donc pour ce faire, effectivement après ils continuent sur des conservatoires à rayonnement régionaux. Donc c'est vrai que nous, la région n'est pas dépourvue, il y a Mâcon, il y a Chalon-sur-Saône, il y a Lyon, il y a Villeurbanne, Paolo dont vous parlez est effectivement passé par Cordes en Calade, voilà, Vincent hoche la tête parce qu'on s'en rappelle bien sûr, c'était un élément très, très précieux et très moteur de l'orchestre, et ensuite il a continué à Villeurbanne, et là voilà, maintenant, c'est effectivement un jeune professionnel tout à fait talentueux. Et Paolo serait là et il dirait, mais en fait, il faut arrêter de mettre la musique classique contre autre chose, parce que d'ailleurs, heureusement, en France, de plus en plus, maintenant, on arrive à ouvrir cette idée-là, et on fait pas soit du classique, soit on est dans un autre monde et on fait du jazz ou du rock ou je ne sais quoi, mais tout est pour eux, en fait. Et effectivement... très souvent les gens qui font du jazz ou de la, enfin peu importe, de la musique actuelle comme on dit maintenant, quelle que soit l'esthétique, quand ils ont une formation classique, ils voient très bien quelle richesse c'est, et j'allais dire c'est aussi une richesse dans l'autre sens en fait, enfin voilà.
Si je peux juste ajouter quelque chose, en fait, la musique classique est à la base quand même de toutes les musiques qu'on entend aujourd'hui. Enfin, je prends un exemple tout simple, le dernier Maroon 5, que vous devez certainement diffuser. Si vous écoutez bien, dedans, c'est le canon de Pachelbel Bell qui a été repris. Et c'est complètement classique à la base. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que la musique classique, aujourd'hui, on la retrouve de partout.
Elle est partout dans d'autres musiques.
Dans la musique actuelle, ouais, exactement.
Oui, et puis comme vous l'avez dit, c'est la base, c'est la première musique.
Et hormis le fait de devenir professionnel, comme le disait Isabelle, à partir d'une formation musicale, derrière, quand on est amateur, le but, quand on joue de la musique, c'est aussi de la partager. Donc on peut former d'autres groupes, d'autres petits groupes à côté, qui permettent justement de jouer dans différents événements, à titre gracieux comme ça, de jouer gratuitement, juste pour vraiment faire plaisir aux gens, en fait, de se dire, ben voilà, on peut aussi partager une musique qui est plus forcément écoutée aujourd'hui, comme peut l'être le classique, et aussi se développer vers d'autres styles de musique, comme le jazz, comme éventuellement des musiques actuelles, ce genre de choses.
Donc Cordes en Calade, c'est un peu un laboratoire d'émulsion qui a dû créer depuis ses 30 ans d'existence beaucoup de petits projets à côté. Donc on a parlé de la musique classique à Villefranche, et vous avez bien fait de nous rappeler que le classique et les autres musiques, c'est pas bien différent. Et justement, dans le programme que vous nous proposez le 21 décembre, vous proposez du classique avec des grands noms comme Vivaldi et des compositeurs...
Schubert.
Et puis des musiques plus récentes, qui sont des musiques de films, par exemple. Comment est-ce que vous l'avez créé, ce programme musical qu'on pourrait écouter?
C'est vrai qu'au début, je suis partie, moi, de l'idée d'inviter Marie Charvet, donc, qui m'a dit j'aimerais beaucoup rejouer Les Quatre Saisons. On sait qu'effectivement, c'est une œuvre qui fait plaisir à tout le monde, en fait, qui fait plaisir aux musiciens, qui fait plaisir au public qui vient l'écouter. Là, pour le coup, c'est aussi l'exemple type d'une musique complètement classique et qui pourtant a traversé les âges et qui sait être complètement populaire, en fait, en partie grâce aux médias et notamment à la publicité. C'est-à-dire, en fait, tout le monde connaît des extraits des Quatre Saisons, en ne sachant pas forcément quelle œuvre c'est, mais tout le monde connaît cette œuvre, vraiment. Donc on savait qu'on allait faire plaisir à tout le monde. Et après, effectivement, c'était un peu difficile. Je suis passée par plein d'étapes. J'ai commencé par me dire, avec une idée un peu... il faut pas faire de bêtises autour de Vivaldi, donc on va faire un programme que Vivaldi. Puis je me suis dit, en fait, moi je vais dire quelque chose que je devrais pas dire, de complètement politiquement incorrect, un programme que Vivaldi. Je me suis dit, mais ça va être rasoir au bout d'un moment, enfin c'est trop de Vivaldi, tu Vivaldi, puis en fait tout n'est pas génial chez le Vivaldi, il faut le dire aussi. Donc du coup, j'ai un peu hésité, et puis je suis partie de cette idée du temps, puisque pour nous, c'est effectivement la symbolique de ce programme aussi, c'est le temps qui a passé, et le temps qu'on a... le temps qu'on a passé, mais avec plaisir, à être ensemble. Et je me suis dit, finalement, et si je partais sur cette idée des saisons aussi, et finalement, toutes les pièces du programme ont un rapport aux saisons. Alors, ça peut paraître un peu étrange, mais par exemple, vous parliez de musique de film, il y a des extraits de La La Land, il y a aussi un hommage à Michel Legrand, qui est quand même un de nos plus grands musiciens, qui nous a quittés en janvier, enfin, pratiquement un an, finalement. Et moi, je me suis replongée là-dedans, et j'ai mieux compris pourquoi on disait que La La Land était un hommage notamment aux parapluies de Cherbourg, parce qu'effectivement, quand on regarde les parapluies de Cherbourg, le film est structuré autour du temps qui passe, des saisons, comme La La Land, en fait. On voit le printemps, l'été, l'automne, tout ça. Donc je me suis dit, oh tiens, là je tiens une piste. Et du coup, je suis partie sur cette idée-là, et aussi avec l'idée d'avoir des musiques qui ont traversé le temps aussi. Donc il y a aussi du Jan Tiersen, il y a du Puccini, il y a du Schubert, enfin voilà, j'espère. En tous les cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à le travailler, ce programme. J'espère que ça va effectivement rencontrer le plaisir du public aussi.
Et donc un programme complet, et vous proposez à 19h, avant le concert, un avant-propos. Alors comment ça se passe, en quoi ça consiste?
Le but de l'avant-propos, c'est justement de présenter l'ensemble de l'œuvre, de présenter un peu les saisons et la thématique musicale qui justement va avec la saison en question. Donc Isabelle justement présente, à chaque fois on présente des tout petits extraits, des micros extraits, où justement en jouant des thèmes bien spécifiques, on se plonge vraiment dans la saison et dans l'émotion liée à une saison, la neige qui tombe, éventuellement l'orage, ce genre de choses, que traduit très bien Les Quatre Saisons, par exemple. Voilà.
D'accord. Je vous prends un peu à dépourvu peut-être.
Non.
J'ai justement des extraits de répétitions que vous nous avez donnés. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de l'avant-propos, d'une explication de morceaux, je ne sais pas, peut-être. C'est un extrait que vous m'avez envoyé de répétition.
On écoute d'abord ?
On écoute un petit peu.
Ok.
Alors c'est un extrait de répétition de Cœur d'Encalade de Vivaldi.
Tout à fait, en fait, c'est le mouvement lent de l'été. Alors, effectivement, c'est un mouvement que je vais décortiquer au moment de l'avant-propos. C'est assez rigolo parce qu'en fait, donc, le violon solo qu'on entend par-dessus, alors j'avoue, c'est pas Marie Charvet, c'est moi, en fait, qui ai donné la réplique à l'orchestre dans le travail de répétition. En fait, ce mouvement lent de l'été, il y a plusieurs superpositions. Quand on entend tout le tutti, on dit le tutti, c'est-à-dire tout l'orchestre qui répond au soliste en faisant ram, padal. En fait, ça, c'est l'orage qui souvent tonne l'été. Hein. Il y a ce contraste dans l'été où il fait extrêmement chaud, puis à force de faire extrêmement chaud, d'un seul coup, il y a des orages. Donc là, c'est vraiment effectivement l'idée d'un coup de tonnerre. Et le violon solo exprime à ce moment-là, en fait, le berger qui a tellement de travail pour surveiller ses troupeaux, tout ça, etc., qu'il est fatigué. Donc la phrase du violon solo qui est relativement très calme par-dessus, c'est l'idée du berger qui est en train de s'apaiser. Et ce qui est les violons qui jouent sous le violon solo, donc qui font yam, papam, papam, de manière très régulière, c'est assez rigolo. C'est en fait, on exprime les mouches et les temps. Alors c'est Vivaldi qui l'écrit lui-même sur sa partition, hein. C'est pas nous qui extrapolons comme ça. Les mouches et les temps qui ne laissent pas de répit au pauvre berger parce qu'ils lui tournent autour de manière un peu excitante, quoi. Ils sont là sans arrêt et du coup, effectivement, ce motif-là est tout le temps répété sous la phrase du violon solo et entrecoupé par le tutti d'orchestre qui lui exprime les éclairs potentiels dans le ciel. Enfin voilà, c'est effectivement très imagé. Les quatre saisons.
Maintenant qu'on sait ça, j'aimerais bien qu'on réécoute oui. l'extrait en ayant cette image en tête.
Tout
ça
à peut fait. Être... Oui.
Voilà, donc on entend le tonnerre, les mouches et les temps, et le berger fatigué.
C'est ça. En fait, il faut se dire, pour les gens, si ça vous parle, c'est exactement cette époque aussi des portraits de Archimboldo, où il a fait des visages uniquement en utilisant les fruits et les légumes de saison. Je ne sais pas si vous voyez ces tableaux qu'on voit souvent sur des affiches. Et du coup, c'est une époque où le figuralisme, ce qu'on appelle le figuralisme, est très présent dans les arts. C'est-à-dire, les artistes partent du quotidien des gens. Ils expriment le quotidien des gens. Et c'est assez drôle de voir que dans ces quatre saisons, effectivement, il y a des choses, par exemple, il y a un autre mouvement lent où il y a l'aboiement du chien, par exemple. Alors c'est l'alto solo qui fait le chien qui aboie. C'est assez drôle et en fait c'est parlant pour nous parce que il faut aussi se replonger dans la manière de l'époque d'exprimer ça, hein, c'est sûr. Mais c'est écrit par Vivaldi dans les partitions, donc nous on le voit. Mais effectivement, on se dit que si on prend pas un temps pour dire aux gens, ben voilà, tel élément musical, il a voulu exprimer ça. Bien évidemment que si on n'a pas d'explication, on vient écouter les quatre saisons, on va être pris quand même par l'émotion. Mais des fois, c'est intéressant aussi d'avoir une écoute plus analytique, un peu en connaissance de cause et en se disant. Ah oui, je sais. Si je peux me permettre juste une petite anecdote, il y a 10 ans, quand on l'avait joué pour la première fois, les 4 saisons, on avait quelqu'un dans le public qui était venu un petit peu gronder l'alto solo, justement, qui faisait le chien qui aboie, en disant quand même, vous auriez pu vous appliquer parce que votre son, là, c'était pas très joli. Alors que c'était une demande de Marie Charvet, avec qui on avait déjà fait ces 4 saisons, justement, d'être plus proche de l'idée d'un chien qui aboie et donc moins instrumental, et de faire un son pas très joli, entre guillemets. Mais du coup, en ne sachant pas, bah, dans le public, c'était passé pour... Il s'est quand même pas beaucoup appliqué à ce moment-là.
Il y a eu une incompréhension. D'accord. Volontaire, du coup.
Voilà.
Vous aurez compris tout l'avantage de l'avant-propos.
Donc oui, moi, ça m'a paru super intéressant de découvrir des morceaux, de savoir ce qu'on va écouter. Donc le concert, lui, il est à 20h30 le 21 décembre. Et l'avant-propos, c'est à 19h. Il faut venir un peu plus tôt. Et comme ça, on sait ce qu'on...
Tout à fait.
À quelle sauce on va être mangé.
C'est ça.
Juste écouter les 4 saisons comme on pourrait l'écouter sur une musique d'attente. C'est l'écouter avec l'histoire qui s'associe à chaque saison, ouais, vraiment.
Vous nous avez parlé beaucoup de Marie Charvet, du coup, qui viendra jouer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous la présenter peut-être un petit peu plus en détail?
Alors, Marie Charvet, moi, c'est un personnage extrêmement attachant que je connais depuis très longtemps, parce qu'on a fait une partie de nos études au Conservatoire de Lyon ensemble. On avait pendant une période le même professeur, et puis après son chemin s'est séparé, elle est allée vers des sphères beaucoup plus lointaines que moi. C'est un personnage extrêmement attachant parce qu'elle joue magnifiquement du violon, vraiment. Voilà, et en même temps, elle a des qualités humaines vraiment incroyables. En fait, j'espère que tous les musiciens de l'orchestre mesurent la chance qu'ils ont, parce qu'ils viennent de passer notamment 2 samedis d'affilée à travailler pendant 6 heures avec elle. Et trouver des gens... De cette qualité instrumentale, de cette qualité professionnelle-là, arriver pour elle, c'est un vrai plaisir de travailler avec nous, on le sent, c'est un plaisir partagé, et elle a cette qualité humaine de savoir se mettre au niveau des gens qui sont autour d'elle. Et j'allais dire, on partage toutes les deux, en tous les cas, aussi une vision, puisqu'on parlait tout à l'heure d'amateurs, de parcours professionnalisants, d'élèves, tout ça, elle comme moi, en fait, quand on est ensemble, on ne se pose jamais la question de savoir si on a des amateurs ou des élèves ou des pré-professionnels. En fait, on est là avec des gens et on fait de la musique. Et moi, j'ai le même niveau d'exigence, et Marie, pareil, on a le même niveau d'exigence avec les gens qui sont autour de nous, en se disant, on fait de la musique. On sait très bien que le résultat final, il sera ce qu'on pourra en faire. Mais en tous les cas, on ne se pose pas cette question. On ne diminue pas notre niveau d'exigence en se disant, ah, on va quand même pas leur demander ça parce que c'est que des amateurs ou que des élèves. En fait, peu importe, on est là pour faire de la musique et on est exigeant au maximum de ce qu'on a envie d'entendre. On sait qu'on obtient des choses dans le travail, j'espère, parce que je les connais, je sais qu'on obtiendra énormément au moment des concerts. Mais voilà, Marie, c'est vraiment donc là maintenant. À l'heure actuelle, elle partage son temps entre des activités de concert. Elle est professeure au Conservatoire National Supérieur de Lyon. Donc elle, pour le coup, ne fait travailler que des gens qui ont déjà ce qu'on appelait à mon époque, à moi, des médailles d'or, des prix de conservatoire. Donc qui, eux, sont déjà des professionnels et qui sont rentrés au Conservatoire National Supérieur de Lyon pour parfaire encore leur connaissance instrumentale, tout ça, etc. Donc elle, habituellement, n'enseigne qu'à des gens qui sont déjà professionnels. Et voilà. Et c'est en même temps aussi quelqu'un qui vient de la Calade, parce qu'elle avait débuté à l'époque où Villefranche, c'était une école de musique. Elle avait débuté à Villefranche. Elle est partie très vite au Conservatoire de Lyon. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très inséré dans le territoire, quoi, dans le local. Voilà.
Vous avez parlé d'exigence pendant les cours. Vincent, vous n'êtes pas du côté des professeurs. Comment ça se passe alors, les cours?
Ça se passe plutôt bien. Non, c'est quand même... Quand Isabelle parlait des 6 heures de répétition, c'est quand même extrêmement éprouvant physiquement. On ne s'imagine pas que la musique puisse être si fatigante. Par contre, on a la chance d'avoir Isabelle et Marie quand même, qui sont complètement différentes dans les demandes, dans la manière de demander. En fait, c'est très complémentaire. Isabelle, c'est vraiment quelque chose de très structuré par rapport à la justesse, surtout à la technique. Aussi à l'approche qu'on veut donner par rapport aux respirations, par rapport au silence, par rapport à la structure globale de la partition. Et Marie, elle apporte ce petit truc en plus parce qu'elle est soliste, donc autour, elle veut vraiment qu'il y ait une unité globale, quelque part, que le morceau dégage, enfin que l'accompagnement sur ces parties solo dégage quelque chose de plus. Donc, ce qui fait que nous, ça nous fait travailler différemment, ça nous fait aussi découvrir des facettes déjà de la personnalité de Marie, mais également de la musique en elle-même, des morceaux en eux-mêmes, qui est totalement différente. Donc, ça demande beaucoup de concentration, c'est clair, autant pendant les concerts que pendant les répétitions, ce qui nous fait beaucoup travailler, autant chez nous que quand on est en répétition. Et c'est ce qui fait, en tout cas, je pense, que le résultat aujourd'hui est vraiment bien. En tout cas, sur la dernière répétition qu'on a fait samedi dernier, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve que le rendu est vraiment très bien. Alors, c'est du baroque, c'est une musique baroque, donc c'est quelque chose qui est assez difficile à jouer parce que, justement, il faut respecter certaines choses de la musique baroque. Mais là, il se dégage vraiment une émotion, en tout cas, moi, je trouve, de mon pupitre. Je trouve qu'il se dégage vraiment une émotion globale entre l'orchestre, Marie, c'est vraiment une symbiose en fait. C'est ça qui est vraiment bien dans cet orchestre qui mélange amateurs, élèves et professionnels. C'est qu'il y a vraiment une unité globale. C'est un seul groupe. Et ils se dégagent vraiment quelque chose de bien, moi je trouve. Humainement et musicalement.
Et ben en tout cas, on a hâte de découvrir ça. On verra ça donc le 21 décembre à la salle de l'atelier pour fêter les 30 ans de Cordes en Calade. Donc rendez-vous à 20h30 pour le concert et à 19h pour l'avant-propos.
Je peux rappeler que les réservations se font sur le site Eloasso, du coup. HE2LO A2SO. C'est en fait assez pratique pour nous parce que ça permet effectivement de bénéficier de l'organisation de cette plateforme pour que les réservations se fassent avant. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver vos places. Je pense qu'on peut dire aussi ceux qui seraient très déçus en se disant ah, le 21 décembre, on peut pas. Il y a aussi dès ce samedi, en fait, on fait alors. Un tout petit, on ne fait pas le programme en entier, mais il y a les 4 saisons et quelques pièces aussi autour à l'église de Chazet-des-Ergues ce samedi 14 décembre. Pareil, à 20h30 le concert, 19h l'avant-propos, et ça se fait, les réservations, enfin on peut prendre sur place, et sinon c'est auprès de la mairie de Chazet.
D'accord. On mettra toutes ces informations-là sur notre site internet avec le lien pour réécouter cette interview si vous avez raté le début ou si vous voulez en parler à vos amis. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cet orchestre Cordes en Calade, et on a hâte de vous découvrir sur scène.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On va se quitter avec un autre extrait que vous nous avez proposé. C'est toujours une répétition. Cette fois-ci, c'est La La Land.